Nzamba.
Nzamba irasamirana.
Le journal avec Joséphine Jones Mundimana.
Vous suivez la radio Nzamba Gateka Kawe. Merci pour votre fidélité. Bienvenue dans ce journal en français dont voici d'abord les principaux titres. 11e anniversaire demain, samedi, de l'incendie qui a ravagé l'ancien marché central de la mairie de Bujumbura. Aucune lumière n'a été dégagée jusqu'aujourd'hui sur les auteurs de l'incendie. Le LUCOM s'inquiète. Dans le domaine de l'économie, nous parlerons également de l'ONG locale PASEM qui demande la modernisation des services des douanes pour booster l'économie du pays. En effet, le monde entier célèbre ce 26 janvier la journée internationale des douanes. Nous irons dans la province de Ngozi pour parler des réussites de cette province à l'examen d'État, édition 2022-2023. Voilà pour le sommaire.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Bienvenue encore une fois dans ce journal. L'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, LUCOM, dit avoir toujours la soif de savoir la cause et les auteurs de l'incendie de l'ancien marché central de la mairie de Bujumbura. Jean Douimana, porte-parole de LUCOM, le dit à la veille du 11e anniversaire de l'incendie de ce marché. Pour lui, tant que la justice n'interviendra pas dans de pareils cas, la population n'aura jamais confiance en la justice et au gouvernement. Écoutez-le.
Beaucoup de marchés sont construits sans laisser des allées pour les véhicules anti-incendie et ne disposent même pas des accessoires anti-incendie comme les extincteurs. De même, il n'y a aucune politique généraliste de mobiliser les commerçants à adhérer dans les sociétés d'assurance. Selon un expert économiste, les marchandises brûlées dans le marché central de Bujumbura représentaient 20% du PIB du Burundi. Le LUCOM a toujours soif de savoir pourquoi il n'y a eu de poursuites judiciaires pour mettre en lumière les causes des incendies des marchés au Burundi et ses hôtels pour que ces derniers soient traduit en justice. Si la justice n'intervient pas dans ce cas pareil, la population se trouvera toujours dans l'inquiétude et manque de confiance au gouvernement du Burundi en général et à la justice burundaise en particulier. De tout ce qui précède, l'ONICOM demande au gouvernement du Burundi d'assurer tous les marchés et de sensibiliser les commerçants adhérés dans les différentes sociétés d'assurance, de disponibiliser des véhicules anti-incendie suffisants et toujours prêts à intervenir afin de prévenir d'autres sortes d'incendies. Mettre en place une commission technique indépendante qui étudierait les mécanismes adéquats de lutte contre les incendies au Burundi en général et sur des marchés en particulier. Mettre en place une commission indépendante qui étudierait les conséquences de cet incendie sur les commerçants victimes et qui pourrait étudier comment le gouvernement du Burundi peut les indemniser afin d'assurer leur résilience.
Je vous le disais dans les titres, le Burundi devrait moderniser le service des douanes pour l'amélioration de la qualité et booster l'économie du pays. C'est du moins un appel de l'ONG locale PASEM. C'est au moment où le monde entier célèbre ce 26 janvier la journée internationale des douanes. L'ONG PASEM propose également de faire un combat sans merci contre la fraude et les exonérations illégales. On écoute Fosan Dikoumana, directeur national de la PASEM.
PASEM donne des recommandations, notamment il y a la modernisation des services douaniers pour limiter les pertes de temps, des infrastructures de qualité, limiter les procédures, la lourdeur des procédures, moderniser les infrastructures comme les ports, les aéroports. Il faut aussi renforcer la capacité de contrôle des marchandises par les services douaniers. Au niveau de la qualité, éviter la surfacturation, éviter l'entrée des marchandises en mauvais état ou une surfacturation qui nous cause un tort énorme, un préjudice au niveau de la gestion de nos devises, alors que actuellement nous en avons en très petite quantité. Cela nous impose une gestion parcimonieuse. Il faut collaborer avec des maisons, par exemple à l'étranger, comme SGS dans l'OTAN, pour aider au contrôle de la qualité des marchandises. Parfois, on se demande le combat contre les fraudes, les exonérations, mais aussi avec des sanctions ne pouvant pas annihiler les activités des opérateurs économiques. Et je crois quelque part qu'il faut voir, il faut visiter contre la fraude dans un contexte où les sanctions n'ont pas dans le sens d'annihiler les activités, mais de corriger leur comportement. Les exonérations actuellement, quand elles sont accordées en dehors de la loi, les exonérations constituent une fraude déguisée. Et la conséquence est que ces fraudes, ces exonérations causent une concurrence déloyale au sein du secteur privé. Quatrièmement, il faut analyser le contexte macroéconomique actuel et de pauvreté pour que les droits de douane, d'abord, ne causent pas l'inflation des biens et services. Parce que tant qu'on augmente les droits de douane sur les marchandises, il y a tendance à ce que l'inflation aussi soit une réalité beaucoup plus préoccupante. Il faut aussi contrôler que les droits de douane ne limitent pas l'entrée des biens dans notre pays.
Et dans le domaine de l'éducation, la province scolaire d'Ngozi occupe la 9e position dans le classement national des réussites à l'examen d'État édition 2022-2023, donnant accès aux études universitaires avec une note de 24,7%. Parmi les 73 établissements qui ayant participé à l'examen dans cette province, 24 ont obtenu une note de 0%, tandis que d'autres ont atteint une note de 100%. Des précisions avec Olivia Gakima.
Selon le rapport officiel rendu public lundi de cette semaine par le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, la province scolaire de Ngozi est classée au 9e rang au niveau national avec une note de 24,7%. Parmi les 73 écoles de la circonscription ayant passé l'épreuve, seules 10 ont réussi à obtenir 50% des points, dont 4 ont atteint une note supérieure à 90%. Le lycée d'excellence de Mousseini, en commune Tangara, a obtenu 100% et occupe la 7e position au niveau national. Ensuite, l'école paramédicale de Ngozi a également obtenu une note de 100% et occupe la 11e position. Les autres établissements sont le petit séminaire de Moureke, en commune Ngozi, et le lycée Don Bosco de Ngozi, qui ont enregistré respectivement 96,8% et 93,9%. Parmi les écoles n'ayant pas atteint la note de 50%, 24 ont pratiquement obtenu une note de 0%. Au niveau national, 390 établissements ont obtenu la note de 0% sur 1196 écoles ayant participé à l'épreuve. Notons que la province de Cibitoke est classée première avec une note de 35,4%, suivie de celle de Kirundo avec 34,8%, tandis que celle de Rumonge occupe la dernière position avec une note de 22,7%. Concernant les communes scolaires, celle de Gatara en province de Kayanza se classe première au niveau national avec une note de 59,2%.
Inzamba. Dans la suite de l'actualité de ce vendredi, des pertes considérables sont déjà enregistrées tant du côté de la population que du côté de l'État à la suite de la décision de Gitega de fermer ses frontières avec le Rwanda. Les citoyens, en particulier ceux vivant à la frontière avec le Rwanda, expriment des regrets par rapport à cette mesure qui entrave les échanges transfrontaliers. De plus, la décision se traduit par un manque à gagner pour l'État en raison de la non-collecte des taxes qui étaient auparavant perçues. Le constat a été fait dans le cadre du magazine Défi de chez nous, un magazine produit en synergie par les médias Radio Inzamba, Gatika Kawe, la radio publique africaine et la télévision Renaissance. Suivez ce reportage d'Inès Gakidza.
Depuis l'annonce de la fermeture des frontières avec le Rwanda par le ministre de l'Intérieur Martin Niteretse, des conséquences socio-économiques n'ont pas tardé à se sont manifestées, surtout chez les citoyens qui habitent non loin des frontières, à commencer par la province Chivitoke, où est situé le poste frontière de la rivière Uwa. La population qui exerce le petit commerce se lamente des déficits qu'ils ont déjà enregistrés. Pour ceux qui avaient contracté des dettes auprès des banques et microfinances, la situation devient plus tendue, explique ce citoyen de la commune Buganda.
Chez nous, en province de Chibitoke, commune de Uganda, en zone Gasenyi, la vie est perturbée depuis qu'on a fermé les frontières de l'eau. Les citoyens qui survivaient du petit commerce de vente des fruits sur la route ne parviennent plus à nourrir leurs enfants. La vie est au point mort. Les fruits comme les mangues ou encore les tomates constituaient d'excellentes marchandises, aussi bien pour les vendeurs que pour les acheteurs. Mais alors, ceux qui ont contracté des crédits auprès des banques et des microfinances sont dans l'impasse puisque les activités sont suspendues. Aujourd'hui, c'est une grande perte tant pour les commerçants que pour l'État qui n'encaisse plus les taxes communales qu'il collectait en situation normale. Il s'agit donc d'un manque à gagner chez les commerçants en même temps pour la commune.
Au nord du pays, on entend les mêmes lamentations. En province Kayanza, dans les environs de la rivière Kanyaru, en dehors des pertes pécuniaires suite à la suspension du commerce frontalier, les habitants se plaignent de la rupture des visites familiales et fraternelles, comme le précise cet habitant de la localité.
Pour nous, les habitants de la frontière, nous avons souvent des amis et proches, même des familles de l'autre côté du Rwanda, comme des cousins ou encore des bons frères. Ceci pour dire que même lorsque nous sommes en pleine activité champêtre au marais de la Kanyaru, nous sommes animés par des causeries fraternelles. Le problème réside au niveau des autorités. Actuellement, il est vraiment difficile de franchir la frontière, que ce soit du Burundi vers le Rwanda ou vice-versa. Des imbonerakure animés de la violence surveillent la frontière.
En province Kirundo, où se situe le poste frontière de Gasenyi-Nemba, ceux qui œuvrent dans le domaine de transport disent qu'ils ne savent plus sur quel pied danser. Certains avaient approché les institutions financières pour pouvoir acheter les véhicules qu'ils utilisent dans ce métier et craignent la réaction ultérieure de ces institutions par rapport au non-remboursement de la dette.
Les frontières ont été fermées alors que des patients en provenance du Rwanda et de la RDC venaient au Burundi pour se faire soigner et des Burundais se rendaient au Rwanda pour la même cause. Nous autres, nous avions contracté des dettes pour acheter des véhicules qui assuraient le transport transfrontalier et voilà que tout est suspendu. Les banques vont bientôt nous poursuivre. Ce ne sont que des problèmes. Même la voie de Chibitoke à Rugombo pour passer sur la rivière Loa n'est pas accessible. Nos enfants vont mourir de faim. Des bureaux ont été fermés car il n'y a plus de travail. La situation est chaotique, tout simplement. Des agences s'étaient procurées de véhicules sur base de dettes contractées et aujourd'hui, ces véhicules sont sur le marché pour les vendre. Mais sans espoir d'en avoir les clients, c'est un problème.
Grosso modo, si la situation perdure ainsi, la famine et la pauvreté vont s'accroître dans les familles qui profitaient des bonnes relations entre le Burundi et le Rwanda.
Merci bien Inès Gakiza. La décision de fermeture des frontières entre le Burundi et le Rwanda est venue comme un coup de massue sur la tête des Burundais. C'est ce que dit André Nikwigize, expert en économie. Il estime que cette décision est intervenue au moment où l'économie burundaise commençait à se relever suite aux échanges commerciaux entre les deux pays. Les investisseurs rwandais commençaient à s'installer au Burundi. Suivez l'économiste André Nikwigize.
La décision de fermeture des frontières avec le Rwanda sonnait alors comme un coup de massue sur la tête des Burundais, essentiellement. À peine après plus d'un an de la réouverture des frontières et la reprise des échanges avec ce pays voisin. Elle intervenait aussi au moment où l'économie burundaise enregistrait une croissance, si timide soit-elle, de son PIB passant de 1,8% en 2022 à 2,7% en 2023. Elle intervenait enfin au moment où le gouvernement du Burundi venait de conclure un accord avec le Fonds monétaire international pour la stabilisation et la relance économique, un accord qui allait permettre une mobilisation des financements extérieurs, pas seulement du Fonds monétaire international, mais également de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement et d'autres partenaires. Elle intervient aussi au moment où les échanges commerciaux avec les pays voisins, en particulier avec la RDC, le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie, commençaient à prendre forme. Alors la décision intervenait enfin au moment où l'investissement privé burundais commençait à décoller petit à petit. Alors on peut se demander, la décision était-elle justifiée politiquement? Je dirais que non. Personne n'a compris le bien fondé d'une telle mesure anti-économique, quels qu'en soient les motifs politiques. Ni les populations burundaises, ni le gouvernement et les populations rwandaises, ni les hauts responsables des pays de la région, ni les partenaires de développement, personne n'a compris le bien fondé de cette mesure. Tout ce monde a été pris par surprise et par la soudaineté de la mesure. Comme vous le savez, avec plus de 75% de la population qui vit dans l'extrême pauvreté, un gouvernement responsable ne pouvait envisager d'interrompre des activités économiques qui pouvaient générer des revenus aux plus pauvres de la population pour des prétextes d'ordre politique. Vous savez, des pays peuvent avoir des différends d'ordre politique, que ce soit en Afrique ou dans les pays développés, mais jamais ils ne ferment les frontières, jamais ils n'arrêtent les échanges entre les pays, car de telles mesures pénaliseraient les populations et les pays tout entiers.
Selon cet expert en économie, les conséquences économiques sont énormes et les premiers à en payer le prix sont surtout les Burundais qui vivent tout près des frontières avec le Burundi et le Rwanda. Encore une fois, André Nikwigidze.
Alors maintenant que la mesure est prise, le Burundi et les Burundais devront évidemment en assumer les conséquences, à commencer par les populations frontalières qui bénéficiaient des revenus des échanges entre les deux pays. Et d'ores et déjà, ces populations se plaignent des ventes de leurs produits dans lesquels ils avaient investi leurs maigres épargnes, renforçant ainsi leur état de pauvreté. Et les vendeurs de boissons en provenance du Rwanda, le lait ou d'autres produits qui sont prisés au Burundi en provenance du Rwanda, désormais ferment boutique, sans alternative. Les hôtels à Bujumbura sont vides, étant donné que la majeure partie des clients venaient du Rwanda. Les restaurants, bref, l'ambiance est morose. La décision a également affecté les échanges avec les populations congolaises du Sud Kivu, qui s'approvisionnaient au Burundi en produits de première nécessité, en passant par le poste frontière de Ruhwa au Rwanda, qui désormais sont obligés soit d'abandonner leurs activités commerciales, soit de passer par une longue route à mauvais état d'Uvira vers Uvira. Ils affirment, les petits commerçants congolais affirment aujourd'hui qu'ils sont asphyxiés par la décision du Burundi de fermer la frontière avec le Rwanda. Peut-être que le gouvernement ne mesure pas encore l'impact économique de cette décision irrationnelle. La croissance économique, évidemment, va baisser sensiblement, non seulement à cause de la baisse des échanges avec le Rwanda, mais également du fait du peu de confiance qu'auront les partenaires du Burundi, aussi bien ceux de la région que du monde, au système de gouvernance du Burundi.
Et bien voilà, c'est par cette analyse d'André Nikwigidze que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez un excellent week-end chez vous. À très bientôt.